4000 ans d'histoire. Une chronique historique hebdomadaire, tous les lundis de 16h30 à 17h, par Elias Acoca-Vigneron, professeur d'histoire-géographie. Je remercie Marc et Maggie de cette épa prévue au programme et notre partenaire NoPay, une application de Paris. Aujourd'hui, nous parlons de Sion, nous parlons de Jérusalem. Alors, dans le passage que vous écoutez aujourd'hui, le générique de cette chronique hebdomadaire, eh bien, vous entendez le chœur des esclaves hébreux de l'opéra de Nabucco, de Verdi, qui ont été joués pour la première fois à la Scala de Milan au XIXe siècle, et ces esclaves hébreux pleurent leur patrie perdue, les rives du Jourdain et les tours de Sion, Sion qui est une des collines, une des sept collines de Jérusalem. Ils sont exilés à Babylone par l'empereur Nabucodonosor. Aujourd'hui, 6 décembre 2021, nous sommes jour pour jour, 4 ans après la décision des États-Unis de transférer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, reconnaissant ainsi Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, ce qu'elle est de fait depuis 1967. Alors Jérusalem est une ville importante dans le judaïsme, elle est mentionnée 660 fois dans le Tanakh, c'est-à-dire la Bible hébraïque, et Sion, qui est une façon de désigner Jérusalem, les 158 fois. Elle est mentionnée comme lieu de pèlerinage pour les patriarches, mais surtout comme capitale unifiée d'Israël, conquise par le roi David sur les Jébuséens, une tribu cananéenne vers l'an 1000, et le lieu où Salomon a fait édifier le premier temple de Jérusalem. Mais que nous dit l'archéologie et l'histoire de Jérusalem à l'époque antique? Alors, pour retrouver des traces archéologiques d'une présence humaine à Jérusalem, il faut remonter 3500 ans avant notre ère, avec des poteries et des céramiques. Mais il semblerait que ce site ait ensuite été abandonné vers l'an 3000 avant notre ère, c'est-à-dire qu'il y a eu donc 5 siècles d'occupation. Au XIXe siècle et au XIXe siècle de notre ère, des premiers textes mentionnent la ville de Rachoulimou ou d'Urushalimou. Ce sont des textes égyptiens d'excréation, c'est-à-dire des textes qui visent à maudire une ville ennemie. Eh bien, Urushalimou, c'est tout simplement Jérusalem. Uru, cela veut dire fondation, et Shalem, c'est le nom d'un dieu cananéen du soleil couchant ou de l'achèvement, de la complétude, qui donc a donné l'idée de paix. Au XVIIIe siècle, d'autres traces archéologiques, une forteresse notamment située près des sources de Guillon, une des seules sources d'eau qui est située à l'est de la cité de David, aujourd'hui à Jérusalem. Avec un système hydraulique dans ces sources, un puits qu'on appelle le puits de Varennes, du nom de l'archéologue anglais Charles Warren, qui l'a découvert en 1867, au fond duquel on a un canal souterrain qui permet d'amener de l'eau jusqu'à la ville. Au XVIe siècle, la terre de Canaan et la ville de Jérusalem passent sous le contrôle des Égyptiens. Il est alors fait mention de cette ville dans les lettres et qui sont conservées, notamment celles du pharaon Amenhotep III et surtout de son successeur Akhenaton, qui est un pharaon célèbre parce que il a, semble-t-il, voulu imposer un culte monothéiste au dieu Aton, dieu du soleil, vers le 14e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire vers 1350 avant Jésus-Christ. On a retrouvé plus de nombreuses lettres, 350 lettres, sur le site d'Amarna, sur des tablettes, et 6 d'entre elles ont été envoyées par un certain Abdi Eba, qui est un vassal du pharaon situé à Jérusalem. Ce vassal lui dit que les Égyptiens peuvent compter sur lui, qu'il est le seul en terre de Canaan réellement fidèle aux Égyptiens, mais qu'il a besoin de leur aide pour résister à des attaques venues d'Ashkelon, vraisemblablement donc des Philistins. Et il mentionne aussi des attaques d'un peuple qu'il appelle les Apirous. Alors les Apirous, c'est intéressant parce qu'on retrouve mention de ce peuple aussi en Mésopotamie. Il est souvent décrit comme un peuple de nomades, brigands, pillards par leurs ennemis, soit les Mésopotamiens, soit les Égyptiens, et on a pu identifier ce peuple aux Hébreux. Ils demandent donc une plus grande aide militaire des Égyptiens. Mais les Égyptiens ne l'écoutent pas, ils transfèrent leur garnison vers Gaza. Hein, effectivement, Gaza est plus proche de l'Égypte. Et dans sa dernière lettre, Abdi Eba se plaint que tout est perdu. Puis, plus de lettres, plus de mentions de Jérusalem. Il semble alors qu'il y ait eu un déclin de la ville de Jérusalem et une invasion de peuples qu'on appelle les peuples de la mer chez les Égyptiens. Alors, il s'agit des Iskos, qui ont envahi donc l'Égypte, mais qui peuvent être aussi les Philistins, qui se sont installés le long de la bande de Gaza et même plus au nord. Leur capitale était Ashkelon. On a des traces archéologiques d'eux, notamment des sarcophages anthropomorphes très beaux, ou les Lyciens qui se sont installés en Anatolie. La Bible nous dit ensuite que lorsque les Hébreux quittent l'Égypte, mettant fin à 400 ans d'esclavage, ils font la conquête de la terre de Canaan avec Josué. Et qu'ils sont ensuite divisés en différentes tribus capables de s'unir sous la conduite de juges. Alors l'archéologie ne confirme pas exactement cela, mais par contre on a bien présence de 1200 à 1000 avant notre ère, et bien de sites archéologiques, plus de 250 à l'ouest du Jourdain essentiellement, avec des maisons, des petites maisons, où l'on ne consomme ni élève du porc, ce qui semble correspondre à l'installation de populations juives. Alors, parmi ces sites, vous avez le site de Megiddo, très ancien site archéologique dès l'époque néolithique, mais qui est aussi occupé par ces premiers populations qui ne mangent pas de porc, à 90 km au nord de Jérusalem, près de Nazareth, le site de Beth-She'an ou d'El Rehov en Galilée, au nord d'Israël actuel, ou Tel Dor, qui est près de Haïfa. Et puis, on a des textes. On a notamment la stèle funéraire du pharaon Meremta, qui a été découverte dans la région de Thèbes par un archéologue anglais, Flinders Petrie, en 1896. Il s'agit d'une stèle où le pharaon célèbre ses victoires. Il est ainsi écrit, les chefs tombent en disant « Paix, pas un seul ne relève la tête parmi les neuf arcs. Défait le pays de Tchénou. Le Hatti est paisible. Canaan est dépouillé de tout ce qu'il avait de mauvais. Ascalon est emmené. Gazer est saisi. Yenoam devient comme si elle n'avait jamais existé. » Et là, c'est intéressant, Israël est détruit. Sa semence n'est même plus. On a la première mention d'Israël dans un texte. Et donc, ce qui semble être une confirmation du récit biblique. La Bible nous dit ensuite que ces tribus sont unifiées par une royauté, celle du roi Saul, auquel succède le roi David. Et c'est le roi David qui conquiert la ville de Jérusalem sur les Jébuséens, une tribu cananéenne, et il en fait sa capitale, la capitale donc du royaume d'Israël unifié. Son fils Salomon, qui a régné de 961 à 922, il fait construire le premier temple de Jérusalem. Alors là, on n'a pas de réelle confirmation archéologique de ce récit. Mais, comme le disent certains archéologues, comme Israël Finkelstein, il est possible que les traces archéologiques de cette ville de Jérusalem soient sous le mont du Temple, que l'on ne peut pas fouiller, puisque c'est à la fois un lieu sacré pour les Juifs, c'est le lieu où on a les ruines du Temple, et puis aussi pour les musulmans, puisque c'est sur ce mont du Temple que sont construites la mosquée d'Omar et la mosquée Al-Aqsa. On a néanmoins une stèle, la stèle de Tel Dan, qui a été découverte en 1993 dans la vallée du Houla, c'est le nord d'Israël, qui est écrite en araméen aux alentours de l'an 900 par un roi établi à Damas, Hazael, et qui mentionne la maison de David. Donc on a bien eu un semblant de confirmation archéologique de ce roi David. Et puis le 1er janvier 2018, on a découvert près du Kotel, c'est-à-dire le mur des Lamentations, qui était en fait l'enceinte du deuxième temple de Jérusalem, un sceau du 8e siècle qui porte la mention au gouverneur de la ville. Et donc cela, là aussi, semble confirmer le récit biblique qui parle de gouverneur dans la ville de Jérusalem. Dans le récit biblique, toujours, à la mort de Salomon, le royaume d'Israël se divise au nord, ça reste le royaume d'Israël avec pour capitale Samarie, et au sud, cela devient le royaume de Juda, dont la capitale reste Jérusalem. Le royaume d'Israël, qui est au nord, est envahi en 722 par la Syrie, une grande puissance qui s'est étendue au nord du Proche-Orient actuel. Mais la Syrie elle-même a des difficultés, et un siècle plus tard, sous le règne du roi Josias, 16e roi de Juda, qui a régné vers 639-630, eh bien, il semblerait que le royaume de Juda ait voulu remettre la main sur les territoires du nord. C'est aussi à cette époque qu'on a un regain de la production agricole, des productions massives de poterie, l'utilisation de pois marqués. Et certains archéologues, certains historiens pensent que c'est peut-être de ce règne du roi Josias, c'est peut-être sous le règne de ce roi Josias qu'a été écrit le Tanakh. Et notamment, on constate que certains lieux de culte, comme Tel Arad, sont abandonnés. Et donc, voilà, l'imposition sans doute d'un lieu de culte unique, le temple de Jérusalem. 40 ans plus tard, vers l'an 600, on retrouve deux amulettes qui portent en hébreu archaïque les premières mentions du nom de Dieu tel que l'on le connaît aujourd'hui, Adonai, que les chrétiens prononcent Yahvé, parce que c'est en fait quatre lettres hébreues, Yud, He, Vav, He. Alors, sont inscrits sur ces amulettes, qu'Adonai te bénisse et te garde, qu'Adonai fasse pour toi rayonner son visage. On reprend notre récit après une courte page de publicité. Je vous parlerai de Nabucodonosor et de l'exil des Juifs à Babylone, des Perses, des Romains et avant des Grecs. Alors, avant la pause publicitaire, j'ai évoqué la ville de Jérusalem jusqu'à l'arrivée des Babyloniens en l'an 587 avant notre ère. Nabucodonosor s'empare de la ville de Jérusalem, pille le temple et déporte les notables juifs à Babylone. C'est ce que cette reprise disco de Rivers of Babylon par Boney M, chantée en 1978, évoque. Le gouverneur babylonien, enfin gouverneur juif plutôt, laissé par les Babyloniens sur place, Sidkouya, qu'on appelle aussi Sédécias, se révolte. La ville est alors assiégée, les murailles rasées, le temple détruit et la population de Judée déportée massivement à Babylone. On a donc là une première diaspora juive en Mésopotamie qui va rester très importante, et c'est d'ailleurs à Babylone que bien plus tard, le Talmud de Babylone sera mis par écrit. Il y a deux versions du Talmud, le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Les Babyloniens sont eux-mêmes chassés 70 ans plus tard par les Perses achéménides, et l'empereur Cyrus, le grand Cyrus, autorise les Juifs à regagner la Judée, qui devient une province perse sous le nom de Yehoud. Le gouverneur de cette province perse de Yehoud, le Zorobabel, fait reconstruire le temple de Jérusalem. On a donc un deuxième temple de Jérusalem. Les Perses, qui ont menacé la Grèce au 5e siècle avant notre ère, sont eux-mêmes conquis par l'un des plus grands conquérants de l'histoire, Alexandre le Grand, qui de 320 à 301 avant Jésus-Christ s'empare de l'immense empire perse. Et s'ensuit une période hellénistique dans la région. À la mort d'Alexandre le Grand, son empire est divisé entre ses généraux, les Diadoques. L'un de ses généraux, qui fonde la dynastie des Lagides, met la main sur la Judée, puis c'est une autre dynastie, les Séleucides, qui s'empare de la Judée. Parmi les souverains Séleucides, Antiochos IV Épiphane veut complètement helléniser la ville et il va dédier le temple de Jérusalem à Zeus. S'ensuit la révolte des frères Maccabées. Judas Maccabée reprend la ville de Jérusalem en 164 avant Jésus-Christ et rentre dans le temple où la lampe à huile qui ne devait cesser de brûler et qui n'avait pas été entretenue par les Grecs durant le moment où ils avaient transformé ce temple en temple à Zeus, la lampe à huile brûle toujours. Elle a brûlé durant 9 jours. Et c'est ce que l'on célèbre lors de la fête de Hanouka. L'un des frères de Judas Maccabée, Simon Maccabée, obtient des Séleucides la reconnaissance de l'indépendance juive en 141 avant Jésus-Christ et fonde donc la dynastie des Asmonéens. Les murailles de la ville de Jérusalem sont reconstruites, elle devient la capitale d'un royaume qui va s'agrandir, qui va devenir relativement important et judaïser certaines populations soumises, comme les Iduméens, par exemple, au nord d'Israël actuel. Alors c'est justement suite à des dissensions intestines entre les Asmonéens qu'un grand général romain, Pompée, intervient en Judée et en fait la conquête en l'an 63 avant notre ère. La Judée devient alors une province romaine. Lors de la guerre civile à Rome qui va opposer le général Pompée au général Jules César, eh bien les Juifs font massivement le choix de Jules César. Et c'est ce qui leur permettra par la suite d'être dispensés eh bien, du culte à l'empereur et donc de garder leur monothéisme. En 37 avant Jésus-Christ, le fils d'un conseiller du roi asmonéen, Hérode le Grand, qui est d'origine iduméenne, s'empare du pouvoir. Alors il construit des forteresses un peu partout, notamment la forteresse de Massada. Il se fait construire un palais dans Jérusalem et surtout, il agrandit le temple. Et c'est à lui que l'on doit eh bien, le mur d'enceinte du deuxième temple de Jérusalem, qui est aujourd'hui devenu le mur des Lamentations. C'est aussi à cette époque eh bien, que naît le christianisme, avec la figure de Jésus, Jésus-Christ, c'est-à-dire le Messie pour une partie des Juifs et qui donc fonde une nouvelle religion, le christianisme. De 66 à 73, malgré tout, eh bien, en 66 plutôt, l'empereur Néron veut imposer aux Juifs le culte impérial. Il s'ensuit une révolte qui débute à la forteresse de Massada qui s'étend à toute la Judée, notamment à Jérusalem. Révolte qui est très bien connue parce que l'un des chefs de cette révolte en Galilée qui a trahi, qui s'est ensuite rangé du côté romain, Flavius Joseph, a fait le récit de cette révolte dans la guerre des Juifs. Alors au cours de cette révolte, eh bien, c'est un général romain qui est envoyé briser la révolte juive. Il s'agit de Vespasien. Mais Vespasien, à la mort de Néron qui est assassiné, rentre à Rome pour devenir empereur de Rome et fonder une nouvelle dynastie. Et c'est son fils qui donc termine de mater la révolte juive. Titus, le fils de Vespasien, fait brûler le temple de Jérusalem en l'an 70, est édifié alors à Rome l'arc de Titus, qui rappelle eh bien, la victoire des Romains. On voit notamment des soldats romains qui, lors du triomphe de l'armée romaine, c'est-à-dire le défilé que les armées romaines font en armes dans Rome pour rappeler leur victoire, eh bien, portent les objets qu'ils ont pris au temple de Jérusalem, notamment une menorah en or. On ramène aussi de nombreux esclaves juifs à Rome. C'est eux qui vont construire le Colisée, le fameux Colisée arène pour gladiateurs en face du Forum romain. La destruction du temple de Jérusalem fait que le judaïsme est obligé de se réformer, de se renouveler. Ainsi, les sacrifices d'animaux sont remplacés par des prières dans des synagogues. Les lois qui étaient détenues par le clergé et qui étaient transmises oralement sont couchées par écrit dans le Talmud de Jérusalem ou le Talmud de Babylone. C'est ce qu'on appelle la révolution pharisienne. En l'an 130, l'empereur Hadrien décide que Jérusalem deviendra une colonie romaine, la Colonia Aelia Capitolina. Et le temple de Jérusalem est une nouvelle fois, sur l'emplacement de l'ancien temple de Jérusalem est édifié un temple à Jupiter. Cela provoque de nouveau une révolte, la révolte de Bar Corba, qui, en 135, est maté dans le sang. La ville est alors interdite aux Juifs. Ils ne pourront plus y rentrer jusqu'en l'an 638 avec l'arrivée des musulmans qui vont chasser les Byzantins. Et la Judée est rebaptisée Palestina, du nom, eh bien, nom qui donnera la Palestine. Mais cela est une autre histoire que je vous raconterai dans une prochaine chronique historique de 4000 ans d'histoire, tous les lundis de 16h30 à 17h. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site internet d'art et d'histoire, avec un S à art et un S à histoire. Nous avons aussi une page Facebook où une quinzaine de guides conférenciers proposent des conférences historiques et aussi des visites guidées à Paris et en Île-de-France. Je vous dis donc à lundi prochain.